Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, on va avoir la tête dans les étoiles, on accueille l'Observatoire de Dax, représenté par Pierre Luger et Hubert Rinaldi. Comment allez-vous, messieurs ?
Très bien, je vous remercie.
Très bien, oui.
Yeah. Bon, enchanté de vous recevoir. On va passer une petite heure ensemble et puis on va découvrir l'Observatoire de Dax et qu'est-ce que c'est l'astronomie. Et c'est une pratique qui fait un peu rêver aussi les gens, en fait, hein, même quand on s'y connaît ou quand on ne s'y connaît pas. Hein, je crois qu'il y a quelque chose, on est toujours attiré par le ciel depuis toujours, depuis que l'homme est homme, je pense. Et donc voilà, ça fait partie de. Vous êtes restés de grands enfants, j'en suis sûr, grâce à ça. ça sert aussi à ça.
Ça sert à ça.
La tradition ici, messieurs, c'est d'avoir un petit peu une idée de la trajectoire personnelle des gens, un petit peu une petite bio, qu'on ait une idée à qui on a affaire, ce qui s'est passé entre le moment où ils sont arrivés quelque part sur le monde et puis qui sont là maintenant devant ce micro, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice, bien entendu.
Oui, moi je vais commencer, Pierre.
Allez, c'est Pierre qui démarre.
Voilà. Écoutez, moi je suis né dans le Pas-de-Calais, donc j'ai migré professionnellement dans les Landes, où j'ai fini ma carrière il y a quelques années, maintenant c'était en 2010. Et on s'est plus dans la région et on y est resté.
Et oui, évidemment.
Et comme j'ai une formation de scientifique, enfin de chimiste exactement.
De chimiste, d'accord, oui.
Tout ce qui était scientifique, ça m'a plu et j'ai commencé à voir du côté de l'observatoire ce qui se passait. Et puis maintenant, je suis happé complètement.
Oui, ouais, voilà, c'est ça. Il y a des fois des hobbies qui deviennent plus que ça, des passions en fait. Hein. On met le doigt dedans et puis on y reste, c'est comme ça.
Non, puis surtout au point de vue organisation des animations, on en parlera tout à l'heure.
Oui, voilà, oui, ça c'est toujours intéressant. Et ensuite
Moi je suis né en Lorraine et j'ai fait mon service militaire en service national actif. Je suis parti au Maroc, ça m'a plu, j'ai continué après vers le Cameroun, puis le Sénégal. Oui. Et en 2000 je suis rentré en France et j'ai eu un poste à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Et comme j'étais surfeur, j'étais content puisque j'étais proche de la mer.
Évidemment.
Très bien. Oui. Et assez rapidement, je me suis acheté un premier télescope et ça m'a plu. Et quand j'ai pris la retraite vers 2011, je suis allé à l'Observatoire de Dax. Je me suis inscrit pour pouvoir me former un peu plus en astrophotographie. Mais j'ai beaucoup progressé à l'Observatoire.
Oui, bien sûr. Oui.
Grâce au chef Philippe Dupouille.
Ah, le chef Philippe Dupouille qui nous écoute peut-être.
Oui.
Alors c'est l'occasion, du coup on va parler un peu de cet observatoire. Voilà, il a quand même une certaine histoire. Il date pas d'il y a une semaine. Il a quand même quelques années. On va faire une petite découverte de votre observatoire.
Alors l'observatoire a commencé, les prémices c'était dans les années 70. Surtout sous le cadre de l'association culturelle de Dax, ce qu'on appelle l'ACD maintenant.
Oui.
Il y a eu quelques personnes qui étaient intéressées et qui ont fondé une section astronomie. Bon, ça n'a pas pris vraiment racine à ce moment-là. Plus tard, dans les années 80, Philippe Dupouille était intéressé aussi. Lui a été plus moteur à cette époque-là et a permis la création d'une tour pour mettre un télescope, disons, hors de portée de la rosée, notamment la nuit.
Ah oui, oui.
Et la commune a voulu, à l'époque, c'était le monsieur Gousbert Dupin qui était maire, un peu un maire visionnaire à l'époque, et il a permis la construction de cette tour qui a permis l'installation donc de ce télescope.
D'accord.
Ça, c'était vraiment le fondement matériel de l'observatoire.
Oui, oui.
En 1980.
D'accord, en 80. Et alors, quelle taille ça fait maintenant, parce que je suppose qu'au niveau matériel, etc., ça s'est développé depuis le temps, un petit peu.
Disons, en 87, il y a eu l'ajout d'un bâtiment qui permettait notamment un laboratoire photographique, parce qu'à l'époque, il fallait développer les pellicules.
Et, oui.
Et puis entretenir les instruments. Donc, il y a eu cet agrandissement qui a été fait en 87, qui nous a permis de nous étoffer et progressivement. On a installé des coupoles qu'on a récupérées au centre des CD-Landes.
Ah oui, oui, parce qu'ils ont ça, ils avaient ça, oui.
Ils avaient ça à
l'époque. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est une chance, parce que bon, après, pour le fabriquer soi-même, c'est pas évident. Ça, c'est du travail, on va dire. Et alors, le site lui-même, Bon voilà, je sais pas où il est exactement, je vous ai pas encore visité, mais ça ne saurait tarder. Y a quand même un choix stratégique à faire quand on choisit un endroit pour mettre un observatoire, j'imagine.
Alors on est, évidemment, on va être.
Oui, c'est le meilleur du monde.
Non, c'est pas le meilleur du monde, justement. Alors, le problème, c'est qu'il est à 36 mètres d'altitude, donc c'est le point haut de Dax.
Oui.
On a à côté de nous un château d'eau, d'ailleurs, qui ne ressemble pas à un château d'eau, puisqu'il est au sol.
Ah oui.
Mais c'est suffisant.
Oui.
À l'époque, on était à côté de l'abattoir de Dax, maintenant qui est disparu et qui a été remplacé notamment par le village Henri Emmanueli, consacré à la maladie d'Alzheimer.
Oui, oui.
Donc là, c'est facile pour nous repérer maintenant. En plus, le gros problème qui se pose sur nous, il y a le contournement sud de Dax qui passe à proximité, enfin contre l'observatoire, et on a du trafic assez intense.
D'accord.
Plus la ligne de chemin de fer qui crée des vibrations, les camions qui créent des vibrations.
Oui.
Et pour les postes photo, ça se ressent au niveau de la qualité des images. Quoi,
Ah oui, d'accord.
Les télescopes sont d'excellents sismographes.
Oui, voilà, malheureusement. Malheureusement, oui. Et oui, il y a des moyens de pallier à ça
C'est ce qu'on appelle les pavés en caoutchouc, les silent blocks.
Oui,
il faut monter les appareils sur des coussins amortissants et on y arrive quand même.
D'accord.
Ou on entend la nuit, il y a moins de fréquentation, il n'y a pas de train qui passe, il n'y a pas de camion.
Oui. D'ailleurs, la nuit, c'est un passage obligé ou le jour, on peut faire des observations aussi, mis à part le soleil Est-ce que le jour aussi, vous pouvez faire des choses?
Non, généralement, c'est la nuit. Dans la journée, c'est essentiellement le soleil.
Le soleil, oui.
Le soleil. Bon, évidemment, s'il y a une éclipse, ça passe le jour. Et s'il y a aussi un transit, par exemple, Mercure qui passe devant le soleil, quand Mercure est passé devant, ça se passait dans la journée. On a eu quelques visiteurs et ils ont de la chance parce que juste au moment d'observer, les nuages sont écartés pour nous donner parce que c'est une journée couverte.
Et ça fait partie des ennemis, les nuages. Hein.
Et oui. Et donc ils ont eu de la chance, ils ont vu le transit de Mercure, un petit point sur le soleil.
Oui, voilà. Ouais. Alors c'est vrai que ces temps-ci, si pour les gens qui regardent un petit peu sur les réseaux sociaux ou dans les sites scientifiques, etc. On a chance d'avoir des super images et vidéos du soleil qu'on n'a pas eu avant, hein, parce qu'on a quand même, des sondes, etc., qui nous permettent d'avoir des infos sur le soleil. Est-ce que vous arrivez à voir les éruptions solaires, hein, ces espèces de petites boucles de feu qui sont la chevelure du soleil, hein, quand vous faites vos observations avec le matériel que vous avez?
Oui, on a un système, un colostat, c'est-à-dire ça capte la lumière du soleil et ça passe dans un spectre et on peut faire donc des photos du soleil dans une longueur d'onde donnée et on arrive à voir en mettant un cache, c'est par logiciel, on arrive à voir les protubérances et on arrive même à voir les protubérances qui sont vers nous parce que grâce à l'effet Doppler, on voit les différences de couleurs qui nous indiquent dans quelle direction se produit la protubérance. Et on arrive aussi à mesurer deux choses, la grosseur quand il y a une protubérance, et s'il y a une éjection de masse coronorale, on arrive mesurer la vitesse, parce qu'on prend des photos, les photos sont datées, et en faisant les mesures, on a la vitesse d'éjection.
Oui. Alors du coup, vous êtes au courant quand il va y avoir une grosse éruption solaire. On a 8 minutes de délai, c'est ça?
On a 8 minutes de délai, 8 minutes.
C'est court pour se mettre à l'abri.
Non, mais c'est la lumière du soleil qui met 8 minutes. Mais la matière met quand même un peu plus de temps à venir. Donc ça ne va pas encore à la vitesse de la lumière, ça va encore.
Non, heureusement, oui.
Oui. Ouais. Donc, souvent, on peut prédire avec cette éruption qui est en direction de la Terre, on va avoir une aurore boréale qui va se produire.
Oui.
Alors, souvent dans la partie haute de la Terre, mais aussi comme ça s'est produit l'année dernière.
Ah oui,
à Dax, on a eu une belle aurore.
Moi, j'étais en Corrèze, j'ai vu une belle aurore boréale. Oui. J'avoue que j'étais assez surpris, mais je m'en doutais parce que j'avais vu dans les infos qu'il y avait de très fortes éruptions solaires et que c'est la source en général de ce phénomène-là. Et ils disaient que c'était vraiment exceptionnel. Donc, du coup, j'ai tenté ma chance. Et effectivement, je ne dormais pas à ce moment-là. Mais on a vu plein de photos, même sur Cap-Breton, etc., de gens qui ont pris des. C'était l'anecdote parce que c'est quand même pas très courant sous nos latitudes en général.
Alors, en plus, c'était pas très visible à l'œil nu, mais surtout avec les téléphones.
Et oui, voilà.
Portables, là, voilà. Ça marche parce que ça prend bien la couleur rouge et donc ça, on voyait bien.
Tout à fait. Ouais. On va parler des CCD tout à l'heure. ça va être l'occasion, effectivement, de parler de vos moyens. Et donc, vous faites aussi, donc, on détaillera aussi un petit peu tout à l'heure, aussi, vous faites aussi des animations, hein, donc vous faites des observations, etc. Mais vous faites un lien un peu entre guillemets, les gens et les scolaires, etc., puis votre pratique.
Oui, beaucoup. C'est-à-dire qu'on a déjà l'observatoire produit du travail astronomique pour le Minor Planet Center et donc pour la communauté astronomique. Mais en direction du public, on accueille des gens tous les vendredis, donc on fait des animations, on accueille aussi des élèves en stage, mais on va en reparler parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on ne prend que des élèves de seconde, troisième, mais qui sont scientifiques, très motivés, oui. Et comme nous ne sommes pas une entreprise, ben, on les fait travailler les mathématiques, la programmation, le Python.
Effectivement, il vaut mieux qu'ils aiment.
oui, et surtout que... comme l'observatoire est fermé le matin, ils viennent de 14h à 20h. C'est intense.
C'est sympa.
Et on va aussi dans les écoles, donc on a participé à certaines animations au lycée de Borda, donc les jours de la science. Donc là, on reçoit des élèves du primaire aussi de collège on fait des animations.
Pierre voulait compléter bien sûr l'historique parce qu'on a parlé que d'une petite partie de ce qui est arrivé à cet observatoire. Il y a eu plein de choses qui ont été construites après.
Alors effectivement, il y a eu plein de choses qui ont été construites et aussi grâce à l'apport de jeunes générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est à la cinquième génération qu'on forme à l'observatoire depuis les années 80.
Ah oui.
Et notamment, on peut citer la réalisation d'un planétarium mécanique, qui a été le premier réalisé par un amateur en France, en 1981, qui est d'ailleurs passé aux émissions de Jacques Martin, c'est incroyable mais vrai.
Ah oui, oula, oui, ça me rappelle les souvenirs, ça.
C'est lointain.
Oui, un petit peu, oui.
Ensuite, il y a eu une réalisation de l'écoute de Jupiter sur les ondes radio, parce que Jupiter émet des ondes radio qui sont tout à fait décelables et permet notamment de calculer, de mesurer la vitesse de rotation de Jupiter sur elle-même. Ça, c'est une équipe de jeunes. Et en 97, il y a une autre équipe de jeunes qui a secondé Philippe pour la découverte d'une comète.
Oui, d'accord.
Ça, c'est... qui est aujourd'hui la comète Meunier-Dupuy, parce qu'il y a eu deux découvreurs. Monsieur Meunier qui était en région parisienne et Monsieur Dupuy qui était en Dax.
Ah oui.
Et chacun a profité d'éclaircies pour pouvoir observer cette nouvelle comète.
D'accord, mais là c'est un peu la consécration. On est content quand on a son nom donné à un astre, un objet
céleste. C'est pour l'éternité, quoi.
Ah oui. Ouais, j'imagine que c'est un petit peu.
Non, c'était un grand moment et les jeunes à l'époque ont aidé à faire les calculs de positionnement astronomique pour effectivement calculer la trajectoire de cette comète.
D'accord, et ça a son cycle, parce que je crois qu'en général les comètes, c'est un cycle, elles ne passent pas qu'une fois, elles tournent avec un cycle plus ou moins long, non ?
Enfin, là, c'était plusieurs centaines d'années.
Oui, on n'est pas prêt de la revoir.
On n'est pas prêt de la revoir.
Ouais, parce qu'il y en a qui ont une durée assez courte, mais il y en a qu'on reverra qu'une fois dans sa vie.
Effectivement, les durées classiques, disons, c'est quelques années à... une centaine d'années. Bon, par exemple, la comète de Halley, c'est 76 ans. Bon, si on peut la voir, c'est au bout de 76 ans. Il faut être patient.
Oui. Je ne sais plus quand elle est passée, je crois que je m'en rappelle, en fait. Je pense à la comète de Halley, je ne sais pas.
Mais elle est passée il n'y a pas longtemps. Mais le problème, c'est qu'elle n'était pas très visible. Elle avait perdu sa chevelure en soi, à cette période.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Ce qui n'était pas le cas en 1910.
D'accord. Bon. Et vous avez construit des choses aussi, donc des objets qui vous servent à observer.
Alors, on va sérieux, moi je parlais, si vous voulez, des objets qui servent à faire nos animations.
Oui.
Parce qu'on est tourné vers le public, comme on disait tout
d'accord,
à l'heure,
oui.
Et il faut leur montrer des choses qui soient réalisables ou réalistes. Et en particulier, on a construit donc un planétarium qui permet de... Alors, c'est dans une coupole qu'on a récupérée, je vous disais tout à l'heure, au centre des CD-Landes, et dans lequel on a installé une projection 360 degrés.
Oui.
C'est-à-dire qu'on immerge les spectateurs dans des vidéos qui parle des étoiles, bien entendu. Mmh. Hein. Et on a à peu près une trentaine de films différents, suivant le type de spectateurs qu'on a, si c'est des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont formés à l'étude scientifique ou pas. Mmh. Et ça permet de faire des animations toutes les semaines. Et par contre, il n'est pas déplaçable, celui-là.
Oui.
On a aussi réalisé ce qu'on appelle un mini-badère. Enfin, c'est un planétarium de table qui permet de faire... Lui, il est mobile. On fait des animations. Mmh. On l'utilise pour expliquer le système Terre-Lune, le système Terre-Soleil, comment ça fonctionne toutes ces planètes les unes par rapport aux autres. Et notamment, ça permet d'expliquer là aussi les saisons sur Terre.
Mmh. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est intéressant, oui. L'explication des saisons, oui.
Il faut être didactique. Hein.
Et de corriger les erreurs qui sont faites. Si on demande par exemple à quelqu'un pourquoi on a chaud en été et froid en hiver, la première réponse, ça va être parce que la Terre, elle est plus proche du Soleil.
Oui.
Or, cette année, elle était le plus proche le 4 janvier.
Oui, d'accord.
On n'était pas à la plage.
Non.
Donc, voilà.
Non, mais ça va peut-être venir, malheureusement. Après, il y a l'histoire de l'angle, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué à démontrer. Mais,
voilà. Ben justement, on y arrive.
Oui, la géométrie...
Sans
géométrie.
Non, on prend un petit tube, une lampe et on explique pourquoi on a chaud en été, froid en hiver et généralement les gens en comprennent.
Si on incline le tube, on voit que la lumière est sur une plus grande surface et donc du coup il y a moins d'intensité lumineuse au mètre carré. Tout à fait. Oui, alors c'est bien parce que vous parlez de ces animations, parce que bon, en fait j'ai découvert votre existence parce que mon collègue Nicolas vous a reçu à Dax. Il dit « Oh punaise, il y a un observatoire à Dax, je ne le savais même pas. » Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis content aussi de vous recevoir, parce que ça va permettre aussi à d'autres auditeurs de découvrir votre existence. Parce que des auditeurs de mon antenne ne sont peut-être pas forcément les mêmes que ceux de Dax, donc ils ont moins de proximité avec ce que vous faites, peut-être. Est-ce que vos activités sont... Vous avez des gens qui viennent aussi d'un peu plus loin, voire même d'ailleurs en France, puisque je suppose qu'il y a un intérêt pour plein de choses.
Ben, en particulier, là, on organise des stages pour les élèves de 3e et de 2e. Donc, ils sont triés sur le volet en fonction de leur niveau scolaire. Mmh. Et cette fois-ci, on avait une élève qui venait de Limoges.
D'accord.
Mmh. Elle a vu ce qu'on faisait, ce qu'on proposait et l'intensité qu'il allait avoir. Elle a dit ça me plaît beaucoup. Elle était très contente de son stage. Donc, en regardant sur Internet, ils ont trouvé le site. Elle a regardé. Puis elle trouvait que c'était très bien.
D'accord. Bon, c'est bien. Après, au niveau de la sélection, si vous savez qu'elle est de Limoges, qu'elle est prête à faire l'effort de venir ici pour voir, elle part déjà avec un bon...
Effectivement.
Un pronostic.
Oui. Mais après, on lui dit ne te déplace pas si tu n'aimes pas la physique, les mathématiques, si tu veux travailler plus de 3 heures, ça t'embête, parce que ça va être un peu long.
Ah ben, c'est l'occasion de rappeler qu'en ce moment, il y a un petit peu une... on fait de la com sur les filles et les mathématiques. On explique aux filles qu'elles ne sont pas plus mauvaises que les garçons, loin de là, et qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne fassent pas des carrières scientifiques aussi. Voilà, c'était une petite parenthèse.
Ben pour la nuit des étoiles, on va avoir une ancienne de l'observatoire qui va nous faire une conférence et qui maintenant est très 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 bien placée dans le domaine scientifique.
Il
y a des gens qui ont été formés à l'observatoire de Dax et des filles qui sont très 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 bien placées. C'est vrai que il y a beaucoup de filles et après elles disparaissent de la vue scientifique, on les voit plus. C'est vraiment dommage.
Et voilà, de retour avec nos invités. Donc il y a de l'actualité, il se passe plein de choses. C'est l'été, c'est le moment, on est bien dehors.
Voilà, oui. Donc tous les vendredis, l'Observatoire de Dax accueille le public. Vous pouvez venir sans rendez-vous. Vous venez à partir de 21h et on a tout un programme qui est prévu. Alors dans le programme, d'abord on présente l'observatoire avec les différents instruments, on explique comment fonctionnent ces instruments, les différentes montures, la différence entre un télescope et une lunette.
Oui, classique.
C'est classique. Oui, ensuite, ils ont droit à une séance de géologie parce que la Terre étant une planète, donc ça concerne aussi l'astronomie, donc on leur explique la géologie locale.
Oui. D'accord.
Et là, c'est Pierre qui fait la géologie.
Ouais, Pierre, en même temps, pour la géologie, ça tombe bien.
Ça tombe bien. Voilà. Ouais, ouais. Ensuite, ils ont une séance de planétarium où on leur passe des petits documentaires. Mmh. Alors, le documentaire, ça dépend du niveau des visiteurs. Si c'est des petits, on a un dessin animé qui leur explique les étoiles, et sinon c'est un peu plus difficile. Une conférence après sur le système solaire, la Lune, la Terre et les relations, les saisons, les phases de la Lune, avec une maquette qui a été fabriquée d'ailleurs à l'observatoire. Où les gens peuvent participer. Et les jeunes de l'observatoire, d'ailleurs, font une partie de cette animation. Et dès que c'est possible, après, dès qu'il fait nuit, on court vers les télescopes. Et on a plusieurs télescopes qui peuvent être mis en station et installés, où les gens peuvent regarder le ciel et découvrir le ciel avec les objets comme... les planètes, les étoiles avec leurs différentes couleurs, parce que c'est pas évident, et les objets du ciel profond, ils découvrent ce que c'est, des galaxies, des amas globulaires et tout ça. Donc ça, c'est les programmes que l'on fait tous les vendredis, à partir de 21h. Alors ça se termine souvent assez tard, vers 1h du matin, ou des fois plus. Donc voilà notre programme.
D'accord.
Alors, je vais prendre, si vous voulez, le relais au point de vue des animations extérieures, parce que on se projette souvent à l'extérieur, suite à des demandes d'ailleurs. Ça peut être dans des lycées, ça peut être dans des collèges. Bon, on fait des animations, par exemple, on était au collège de Morsens, on était au lycée d'Aaron Taziev à Saint-Paul. Et là, on participe aussi, ce que disait Hubert tout à l'heure, on participe à la semaine de la science début octobre, et ça se passe au lycée de Borda.
Oui, d'accord. Bon.
Cette année, on participera aux berges éphémères de Dax. Donc on sera la nuit du 31 juillet, pardon. On sera près du pont, enfin de la passerelle, comme on appelle maintenant. Et on fera une conférence sur le système solaire, plus la projection d'un film. Bon, on espère que la nuit sera belle, puisse observer après.
Ça, c'est vous êtes tributaire de la météo, ça c'est sûr.
Ouais, surtout des nuages qui viennent de l'ouest en fin de journée.
Oui, c'est sûr que là...
On participera aussi, on fera une séance de nuit des étoiles au château de Belloc, à la demande d'une association qui est locale là-bas. Ça sera à l'intérieur du château. On fera notre nuit des étoiles le 8 août, le vendredi 8 août. Bon, qui rassemblera donc pas mal de personnes, notamment avec la conférence de Maïlis. Ensuite, on participera à la fête, je vous disais tout à l'heure, la fête de la science en fête, début octobre.
D'accord.
Et on répond aux sollicitations. Par exemple, l'année dernière, on avait été à la réserve naturelle d'Arjusanx. Alors, on a eu une nuit magnifique.
Et oui, avec le cadre peut être sympa aussi, le cadre.
Non, mais là, il n'y a pas de lumière.
C'est
génial. On a eu la nuit pour nous et puis beaucoup d'étoiles filantes.
Voilà. Parce que la nuit des étoiles aussi, bon, je suppose que le calendrier n'a pas été choisi au hasard pour la période quand même.
Ah bah, des étoiles filantes, il y en a tout au long de l'année. Mais si on organise une nuit des étoiles le 12 décembre, les gens vont avoir un peu froid.
C'est ça. Et pourtant, comme on disait aux antennes aussi, c'est souvent les meilleurs moments pour faire les observations.
Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au mois d'août, la Terre traverse un essaim de poussière laissé par une comète. Et on sait que, donc, aux alentours du 15 août, on va avoir des étoiles filantes. Alors, c'est jamais sûr, parce qu'il suffit que le nuage soit un peu moins dense et il y en a un peu moins.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui. C'est toujours... Les étoiles filantes, donc, qui sont des fragments de roches ou de petits météorites ou
alors, traversent l'atmosphère. Oui, il y a des météorites, mais il y a aussi donc la poussière des comètes. Donc, c'est quand une comète s'approche du Soleil, elle relâche de la matière,
elle fait un
nuage de poussière. Et quand la Terre traverse ce nuage de poussière, où on sait où il est situé, donc on sait à peu près l'époque, dans ce cas-là, on sait qu'il va y avoir des étoiles filantes. On en voit quand même assez souvent.
Toutes les nuits. Si on est un peu patient.
Oui.
Le mieux, c'est de s'allonger quand même, parce que ça fait mal au cou.
Oui.
Ça, j'ai remarqué ça.
Et prendre une couverture.
Oui, voilà, oui. Parce que même l'été, on ne peut pas avoir froid la nuit, quand, en tout cas quand le ciel est clair.
Et souvent, les gens qui viennent fin août, début septembre, il fait chaud dans la journée. Et le soir, ils pensent qu'il va faire chaud, mais ils ont froid.
Mmh, oui, oui.
Ouais. Et en hiver, ils oublient aussi de mettre des chaussures épaisses.
Oui.
Parce qu'on observe dehors et assez rapidement, il fait froid.
Mmh. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, les variations de température, c'est un peu un ennemi aussi, hein, parce que ça induit des dilatations ou des contractions de vos matériels.
Oui, mais quand on a des télescopes pour observer avec les visiteurs et ces télescopes sont mis en température avant, ouais. C'est-à-dire on sort le télescope une heure avant.
Ils sont chambrés, on peut dire.
Oui, on les chambre et ça permet donc de stabiliser la température. Ils sont à la même température que l'extérieur, donc là ça va.
D'accord. Et donc, il y a beaucoup d'engouement. Les gens sont vraiment...
Parfois, il y a 60 personnes qui sont là. Et donc, on fait des groupes et pour pouvoir regarder. Mais on a quand même beaucoup de télescopes que l'on peut sortir. Mmh. Et il y a parmi les adhérents de l'observatoire, il y a pas mal de gens qui savent pointer vers les objets. Donc, on s'organise et on est capable d'accueillir beaucoup de monde.
D'ailleurs, alors ça, cette opération de pointage, est-ce que c'est compliqué? Comment est-ce qu'on fait pour dire, tiens, je vais regarder cet objet-là particulièrement?
Il faut connaître le ciel, ça nécessite quand même un petit apprentissage. Et ensuite, sur les télescopes qui ne sont pas motorisés, qui n'ont pas le go-to, qui sont à la main, donc là, il faut savoir se repérer dans le ciel et savoir que tel objet se trouve entre telle étoile et telle étoile, à telle distance, telle position. C'est pas facile. Ensuite, on pointe des objets que l'on ne voit pas à l'œil nu. Donc c'est un peu compliqué.
Oui.
Après, on a des télescopes, quelques télescopes qui sont motorisés avec le GoTo. Une fois qu'ils sont mis en station, c'est-à-dire la monture parfaitement alignée avec l'axe de rotation de la Terre, etc. Une fois que la phase là est bien faite, il suffit de se synchroniser sur une ou deux étoiles et le télescope retrouve tous les objets du ciel qu'on veut. Il y a 40 000 objets dans sa raquette.
Ça doit être pratique, ça.
Ah oui, c'est pratique parce qu'on peut passer rapidement d'un objet à l'autre, et si jamais il y a quelqu'un qui dit je pourrais revoir telle chose, on perd pas de temps à le rechercher parce que des fois, en particulier pour les objets qui sont au zénith, donc pile au-dessus de la tête, des fois c'est difficile, et là un go-to ça aide bien.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Et puis alors je pense aussi vous devez faire un peu de conseils auprès des gens qui viennent vous voir des fois, je voudrais bien m'équiper un petit truc.
Alors c'est ce que on leur dit, si vous avez envie d'acheter un télescope, ne l'achetez pas tout de suite, venez nous en parler. On pourra vous donner les différentes caractéristiques et vous conseiller en fonction de ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire de vos moyens financiers, parce que ça nécessite un investissement intellectuel assez important, parce que des fois dans certains endroits ils vous disent un enfant de 12 ans peut piloter tout ça, c'est pas forcément vrai. Imaginez, vous avez un télescope, vous le donnez, vous sortez un soir de Noël et vous faites quoi avec? Bon, vous allez regarder s'il y a la lune, mais après, vous êtes perdu.
Oui, c'est sûr.
Donc ça se prépare, les observations se préparent et le télescope aussi, parce que il y a ce qu'on appelle sur le télescope, il y a un chercheur. C'est comme sur un fusil avec une lunette. Si elle n'est pas alignée par rapport au télescope, on a l'objet dans le chercheur, mais pas dans le télescope. Et c'est pour ça que...
Si c'est pas bien réglé, forcément.
Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent aussi avec des télescopes. Ils ne savent pas s'en servir. Ils l'ont acheté.
Oui.
Et on leur fait une séance pour leur expliquer comment se servir du télescope.
D'accord. Et alors, combien est-ce que votre structure, vous avez combien de personnes? Vous représentez combien de personnes? C'est l'observatoire, il y a des bénévoles, etc. Vous fonctionnez comment? Vous êtes combien?
Tout le monde est bénévole à l'observatoire. Et il y a déjà un groupe de jeunes qui est très actif. Ils sont à peu près une douzaine et qui savent pointer, qui savent expliquer, qui prennent ça. Et quelques adultes qui sont là aussi. On est à peu près une douzaine, c'est ça? Une dizaine d'adultes, donc on arrive à recevoir pas mal de monde à l'observatoire.
Ouais, je voulais profiter aussi de l'occasion, là, avant qu'on fasse la dernière pause, on en a parlé au rantel, mais c'est vrai que c'est bien de dire aux gens, en fait, qu'est-ce que c'est un astronome amateur, parce que le terme amateur peut être interprété de manière péjorative par certaines personnes, c'est-à-dire non professionnel, voilà, mais c'est en fait, c'est une communauté mondiale qui fait un travail indispensable, en fait, il y a vraiment une dynamique, une relation entre les gens et un travail scientifique qui est fait par des milliers et des milliers de gens sur la Terre.
Et il y a même une communauté pro-âme, donc il y a du travail qui est fait à la fois par des professionnels et des amateurs. Les professionnels demandent à des amateurs de faire un certain nombre d'activités, en particulier pour quand on a un astéroïde et on veut savoir sa forme, et que cet astéroïde passe devant une étoile, ça fait une occultation. Donc là, il faut qu'il y ait le plus de monde possible, parce que ça va donner l'ombre de l'astéroïde sur la Terre, et on arrivera à voir sa forme. Et la forme, à un moment donné, et comme les astéroïdes, ils tournent en général.
En
plus, donc il faut faire beaucoup de mesures, et ça fait, on a l'ombre, et à partir de l'ombre, on arrive à reconstituer la forme. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait avec les amateurs et les professionnels.
Oui, voilà, c'est
mais il faut avoir, il faut se former. En tout cas, on ne fait pas que regarder le ciel.
On a encore des choses à dire, n'est-ce pas?
Beaucoup.
Voilà.
Trop.
Ah oui. Si vous avez des partenaires, etc., des gens qui ont aidé.
Effectivement, on peut mentionner les clubs services de Dax qui nous ont financé il y a 3 ans un mini planétarium, ce qu'on appelle le BADER, et qui permet de reconstituer le système Terre-Lune, la Lune autour de la Terre, la Terre autour du Soleil, et d'expliquer au grand public comment ça fonctionne, les éclipses et des choses comme ça.
Oui, alors, j'ai une question un peu particulière, parce que moi ça m'est déjà arrivé. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ces gens? Enfin, vous savez de qui je vais parler, des platistes?
Non,
parce que non. Vous n'avez jamais rencontré?
Non,
pas de platistes. En revanche, on a quelques gens qui sont férus d'astrologie.
Ah oui, oui.
D'accord.
Ah, ils cherchent toujours une justification.
Et là, des fois, ils sont un peu déçus parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'ils pensaient.
Et oui, vous leur expliquez qu'avec la précession des équinoxes, en fait, il y a un décalage de 9 sites sur 10, en gros.
Oui, voilà. Et en plus, il n'y a pas 12 constellations à l'écliptique, il y en a 13, donc du Serpentaire, ce n'est pas trop connu.
Oui, c'est dans Harry Potter, peut-être.
Harry Potter.
Oui. Alors, je voulais aussi mentionner la réalisation d'un télescope qui date maintenant quelques 3 ans, 4 ans, à 500 mm, qui a été réalisé entièrement à Dax, c'est-à-dire toute la structure, la coupole, et ainsi de suite.
D'accord.
Et ça, c'est un outil qui nous permet de descendre à des magnitudes très, très, très faibles, donc de voir des choses, notamment des astéroïdes qui sont de petite taille.
Donc, plus le diamètre est grand, plus il y a de lumière, mieux on voit, c'est ça
Bien sûr. Bien sûr, c'est le diamètre du télescope qui permet de capter davantage de lumière.
Oui.
Et en particulier, on fait du suivi d'astéroïdes. Alors là, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est quand même un fait important et qui concerne des amateurs dans le monde entier. Donc on fait du suivi d'astéroïdes. C'est-à-dire qu'on va basculer, nous on va faire ça nuit. Les Américains vont prendre le relais 6 heures après. Les Américains de l'Est, de l'Ouest, le relais. Les Japonais, le relais, et le relais suivant va être pris par les Russes.
C'est les 3 bits de l'astronomie.
C'est les 3 bits, on couvre en 24 heures, on est capable de déterminer la trajectoire d'un astéroïde.
Oui, il y a une veille permanente en fait.
Il y a une veille permanente mondiale. Ce qu'on disait Hubert tout à l'heure, c'est que les résultats sont collectés par le Minor Planet Center qui est à Harvard, dans le Massachusetts, aux USA, et qui permet de déterminer la trajectoire réelle des astéroïdes. Alors pourquoi on fait ça? C'est éventuellement pour ne pas finir comme les dinosaures.
Oui, off.
Oui.
Je ne sais pas, on verra. Non.
Aujourd'hui, on a les moyens, on saurait dévier un astéroïde si on s'y prend plusieurs mois à l'avance.
Oui, il y a une thèse qui avait été faite d'ailleurs sur un astéroïde il n'y a pas très longtemps.
C'est la mission DART.
Oui, voilà. Ouais. Donc en même temps, c'est un petit essai, ça donne une idée un peu de ce qui se passe quand on essaye d'intercepter. Il y a plein de méthodes qui ont été inventées, imaginées, mais bon. Il y a beaucoup de films américains où on voit des gens avec des bombes atomiques. Oui. Ça c'est sûr.
Surtout pas faire ça.
Oui, voilà.
Parce que là, c'est davantage de morceaux à gérer après.
Voilà, c'est ça. Oui. Après, on va prendre une pluie de météorites sur la figure en fait en faisant ça.
Oui, mais quand c'est des morceaux qui font plusieurs dizaines de tonnes.
Ben oui, c'est ça. C'est pas bon.
Non, c'est pas bon.
C'est pas bon. Ouais. Et donc, je voulais parler aussi rapidement. On a parlé en tête de Bételgeuse. Bon, c'est vrai que il y a peut-être des étoiles qui un jour elles vont elles vont devenir des supernovas et que donc il y a des fois il y a des gens qui les surveillent. Est-ce que ça sera visible si Bételgeuse par exemple, qui est je crois 640 années-lumière de nous, si ça devient une supernova, est-ce qu'à l'œil nu on va la voir?
Oui, ben ça fera une étoile qu'on verra en plein jour.
Oui.
Voilà, comme par exemple en 1054 les Chinois ont vu une étoile en plein jour. Oui. Et c'était donc une étoile qui était plus de 8 fois la masse du Soleil qui a explosé. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le Soleil ne va pas exploser. Mmh, il va grossir et après devenir ce qu'on appelle une naine blanche.
Oui, c'est ça. Oui.
D'accord. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des étoiles qui peuvent exploser à condition d'être assez grosses et donner après une étoile à un neutron ou, dans le cas extrême, un trou noir.
Mmh, oui.
Trou noir, les gens n'ont pas vraiment l'idée de ce que c'est. Ils s'imaginent que c'est un trou qui nous permet d'aller de l'autre côté de
l'univers. Il y a beaucoup de science-fiction. Bon, après, en même temps, quand même, il y a eu pas mal de communication sur ça, même dans les films. Hein, je parle de Interstellar, etc. Dont les images, d'ailleurs, sont de bonne qualité, ce qui a inspiré des travaux de Luminé, qui est quand même qui est une lumière lui-même, on peut le dire, sans faire de jeu de mots. Mmh. Voilà, donc je pense que les gens ont une petite idée. Après, vos travail, vous aussi, c'est faire pas mal de vulgarisation et de correction. D'a priori et de fausses croyances, je suppose.
Voilà. Et la première, c'est qu'on demande quelle est l'étoile la plus brillante dans le ciel. Tout le monde nous dit c'est l'étoile du berger.
Ah oui, qui est une planète.
Qui est une planète qui est Vénus. Oui. De même que quand on leur montre Vénus à certaines époques de l'année et qu'ils voient un croissant, ils disent tiens, c'est la Lune.
Ah oui.
Ouais. Et puis on leur dit c'est un peu petit pour la Lune. Et puis après, ils disent ah ben non. Et ils savent pas que Vénus est en croissant et ils comprennent pas que pourquoi on la voit en croissant.
Et
c'est là qu'avec la maquette, on peut leur expliquer pourquoi on a des croissants de Lune et des croissants de Vénus.
Et oui, bien sûr. Ouais.
Donc on est là pour rétablir un certain nombre d'erreurs.
Évidemment. Bon, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire avant de se quitter, messieurs?
Oui, sur Vénus, on la voit très bien à 6 heures du matin.
Oui.
Les jours clairs.
Bon, il faut être. Ou alors, il faut coucher très tard ou se lever très tôt.
Voilà.
Ah non,
voilà.
Là, très tôt.
Et on vous attend à l'observatoire.
Oui, oui. Ah ben, moi, je pense y faire un tour un de ces jours. Ben oui, parce que moi, ça m'intéresse. Et puis, bon, voilà, c'est ça, je disais tout à l'heure au début, en introduction, c'est vrai que depuis toujours, je pense que l'être humain a levé les yeux vers la tête, vers le ciel, parce qu'il y a des choses bizarres hein, dont on ne sait pas forcément ce que c'est. Ça a dû créer beaucoup de mythes et légendes et de croyances. Et bon, il y a toujours, même si c'est une science, il y a toujours un petit peu de magie, de merveilleux dedans, je pense.
Il y en a beaucoup. Ouais. Oui, oui, oui. Il y a encore beaucoup de choses dont on ignore ce qui se passe.
Bien sûr. Et bon, c'est pas plus mal des fois. Bon, écoutez, messieurs,
on peut quand même ouvrir une parenthèse. Oui. Effectivement, l'année dernière, on a vu beaucoup de traînées de satellites dans le ciel, parce que c'était les constellations de Starlink qui se
déployaient. Voilà, ouais,
et là, ça pose un problème de pollution lumineuse.
Oui, bien sûr, la pollution lumineuse, on n'a pas eu le temps d'aborder ce problème-là, mais c'est l'ennemi de l'astronome, la lumière, les villes, etc. Bon, voilà, évidemment, c'est comme nous, hein, c'est pareil, si on a la lumière dans les yeux, on a du mal à voir ce qu'on essaie de regarder, c'est un peu logique. Ben c'est le moment de se séparer, messieurs. Ben merci beaucoup pour ça. Moi, je mettrai les liens vers votre site internet, etc., sur le podcast, pour que les gens puissent trouver votre adresse, comment aller vous voir, votre programme, etc., parce que je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler de tout ça à cette antenne.
Ben on vous remercie de nous avoir accueillis.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup.
Au revoir.